aux malins. Hein, c'est un grand principe dans le royaume de Dieu. Nous faisons partie d'un autre royaume. Nous avons changé de côté. Nous étions du mauvais côté, je vais dire, même sans savoir, même si on ne le voulait pas, même si on voudrait être neutre. Hein, on savait bien que la neutralité n'existe pas. La Belgique a cru à un moment donné qu'on pouvait être neutre. Mais ils se sont fait ramasser. Hein. C'est comme celui qui a un drapeau qui veut passer entre deux armées. Il a le drapeau de l'armée de gauche et sur l'autre côté, c'est le drapeau de l'autre. Comme ça, pas de problème. Mais un coup de vent qui retourne l'histoire et il se fait piloter des deux côtés. Et donc, ne soyons pas comme ça. Hein. N'essayons pas de faire la paix avec tous dans le sens la paix avec le diable et Dieu. Bien sûr, on sait faire la paix avec Dieu. Mais le diable ne nous laissera pas tranquilles. Hein. Et c'est impossible d'être réconcilié avec Dieu et pas avoir de problème par rapport à l'autre camp. D'accord ? Ça, c'est important de le réaliser. Voilà, donc il y a des principes à connaître. Nous allons prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur Père, nous te prions vraiment de bénir ce temps de prédication, que vraiment ton esprit puisse nous parler aujourd'hui, encore sur les principes du royaume, le royaume de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es bon, tu es fidèle. Amen. Donc, on a déjà vu dans deux prédications au moins la loi de la multiplication, semer pour récolter. Hein, on ne va pas revenir dans les détails sur tous ces aspects qui ont été vus. On a vu aussi mourir pour ressusciter. Il faut mourir pour ressusciter. Il faut diminuer pour laisser grandir Jésus en nous. Hein. Sinon, c'est la chair qui occupe toute la place. Et quand je quitte le trône de mon cœur, alors je peux laisser Jésus venir régner en moi. Enfin, ça peut être des mots. Hein. On a quelquefois le langage. Le langage peut être là, hein, mais la réalité, elle est différente. Ce n'est pas le beau langage. Dieu, il sait ce qui se passe au fond de nos cœurs. Qui est vraiment assis sur le trône de notre cœur? Donc, diminuer pour laisser... Ça, on l'a vu la fois passée. Et il y a bien sûr la loi de l'humilité, s'abaisser pour être élevé. C'est une loi. Si on s'abaisse, on sera élevé. Si on s'élève, on sera abaissé. L'humilité précède la gloire. Alors, il y a des autres principes, bien entendu. La soumission et la résistance au diable par la foi en la vérité. Hein, je crois que c'est important de mettre à la fois la soumission et la résistance. Parce qu'on pourrait simplement voir la résistance, comment résister au diable. Mais il y a deux principes qui vont ensemble. Se soumettre, hein, et ça c'est... Je vais dire que dans notre société, c'est pas quelque chose qui est intéressante, c'est pas quelque chose qui est vu comme étant bien, d'accord ? Et pourtant, la parole de Dieu en parle, hein, elle en parle pas mal. Donc, c'est vraiment un principe fondamental, la soumission, on pourrait parler de l'obéissance, la soumission, la différence entre les deux, hein, ça c'est aussi toute une question, est-ce que c'est la même chose, est-ce que c'est pas la même chose ? L'obéissance, on demande une obéissance directe à des enfants, et des fois ça peut sauver la vie de quelqu'un. Un père, un jour, il était avec son gamin était au-dessus d'une camionnette, là, et il passait en dessous d'un pont, je ne sais plus quoi, et il a donné un ordre à son fils, « Couche-toi !» Et il s'est couché, grâce à ça il a été sauvé. Donc, quelquefois, l'obéissance, ça peut sauver une personne. Donc, c'est tellement important, une obéissance directe. Une soumission, c'est un peu différent. Soumission, soumettez-vous les uns aux autres. L'homme et la femme, même, soumettez. Donc, il y a une soumission de la femme par rapport à l'homme. Et pourtant, il y a ce petit verset qui parle d'une soumission mutuelle. Alors, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Et d'un autre côté, la femme se soumet par amour vis-à-vis de son mari, donc l'homme qui a quand même le dernier mot, mais qui, quand on étudie vraiment les Écritures, ça parle d'un dialogue. Et ça parle d'un homme qui sait écouter sa femme. Et ce n'est pas d'un homme qui impose ses idées. Jamais on voit ça dans la Bible, que l'homme doit prendre autorité sur sa femme, par exemple, de force. ça n'existe pas. La parole de Dieu nous parle d'amour. L'homme, il est exhorté à aimer sa femme. Et c'est dans ce principe d'amour que la femme se soumet à l'amour. Et ça, c'est très important. Hein. Sinon, on a affaire à une Bible qui voit l'homme étant au-dessus de la femme et un peu tyrannisant. Et Dieu ne voit pas cela du tout comme ça. D'ailleurs, il nous a montré l'exemple du service, de l'amour qui sert. Hein, c'est un amour de service. Je crois que c'est un très important. Donc, et je voudrais bien qu'on prenne. Donc, il y a une grande différence. Hein. Donc, il y a un dialogue dans la soumission. Il y a un dialogue, mais finalement, on se soumet. Hein. On essaie de comprendre, etc. L'obéissance, c'est beaucoup plus direct. D'accord. Nous devons obéir aussi hein, et nous soumettre. Et c'est surtout ce principe de soumission plus encore davantage qu'une obéissance sans comprendre. Des fois, Dieu nous demande d'obéir sans comprendre, et puis on comprend par la suite. Ça aussi, il faut savoir le faire. Bon, alors, Jacques, chapitre 4, verset 1er. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Puissant, percutant. Bon, alors, on peut constater dans le monde et même dans l'Église que, le verset 7 se met à l'envers, bien souvent. Donc, soumettez-vous à Dieu, quelquefois, par un manque de connaissance, dans l'ignorance, on se soumet au diable. Et on résiste à Dieu. C'est une pratique courante. Donc, c'est pas étrange, hein, ce que je dis là, hein. J'inverse l'histoire, mais c'est une pratique courante. Donc, c'est plutôt soumettez-vous au diable et résistez au Dieu. Et bien sûr, l'ennemi ne fuira pas, hein, je peux vous assurer. Et donc, à partir du moment où on accueille les pensées de l'ennemi, eh bien, parce qu'on n'a même pas compris que ça venait de l'ennemi, et quelquefois, on se retrouve dans cette situation, on se soumet aux pensées du diable. Et on résiste en plus à Dieu. Vous voyez le truc, parce que Dieu veut nous amener à un changement, mais quelquefois. Et ça, c'est la chair. La chair, elle fait ça. Nous sommes tous avec cette chair. Et la chair nous se soumet. La parole de Dieu dit qu'elle ne se soumet pas à Dieu. Hein, on parle de soumission. La chair, quand on la laisse faire, elle ne se soumet pas à Dieu. Et donc, c'est ça qui va se produire. Alors, le principe de l'obéissance et de la soumission dans le royaume. Oui, c'est se soumettre à Dieu, se soumettre à la parole de Dieu. La soumission à Dieu nous donne de résister au diable qui doit fuir loin de nous. Hein? Ça, c'est de manière. C'est ce que le verset nous apprend. Nous verrons aussi le principe de la foi, bien sûr, combattre le principe d'incrédulité du monde et du doute quand il vient. Je crois que c'est très important. Nous avons à combattre l'incrédulité et le doute qui viennent par des pensées. paroles d'autres personnes qu'on peut entendre dans le monde, dans des chansons ou quoi que ce soit. Il y a plein d'incrédulités, de paroles qu'on peut acquiescer et finalement ça devient les nôtres. Des pensées de doute, d'incrédulité, qui deviennent des vérités pour nous. Et la vérité de l'Évangile est reléguée comme un vulgaire mensonge. Terrible, hein? Donc, vous voyez, il y a plein de gens dans la société qui ont adopté autre chose que la vérité. Hein. Mais pour eux, c'est leur vérité. Vous voyez, le mensonge peut être une vérité pour la personne. C'est comme ça. Et il y en a qui peuvent penser que la vérité de l'Évangile, que certaines personnes croient, est un mensonge. Ils en sont certains, hein. Ils sont convaincus. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de conviction du Saint-Esprit dans le cœur d'une personne, il ne peut pas se tourner vers Dieu, il ne peut pas se repentir. Et il y a des forteresses qui ont été établies dans nos cœurs, dans nos vies. Il y a des murs qui ont été érigés. Et Dieu ne pourra pas nous parler, ne pourra pas venir dans nos cœurs faire un travail s'il n'abat pas d'abord ces forteresses. Il y a des forteresses, des raisonnements, des pensées qui sont contre Dieu. Et rien ne va changer dans le cœur d'une personne tant que ces forteresses, ces raisonnements et ces pensées-là demeurent. C'est vraiment une garantie, une forteresse, quelque chose qui encercle la personne et l'empêche de s'ouvrir à la possibilité d'être libérée. Et la possibilité d'être libérée, évidemment, ce sera par la parole, puisque la parole de l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et la vérité que Jésus proclame nous rendra libres. De captifs, nous serons libres. Mais l'ennemi fait tout pour nous empêcher de croire ça, évidemment. Parce que ça, si on parvient à découvrir que c'est comme ça, on est libre. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'on soit et qu'on reste esclave, évidemment. Le but du diable, c'est qu'on ne puisse pas évoluer, qu'on ne puisse pas avancer, qu'on ne puisse pas dépasser les problèmes que nous vivons. Et l'ennemi est très content, très heureux. Ça se passe très très bien. Il nous garde dans une espèce de cocon d'incrédulité où on peut très bien, plus ou moins, être bien. Hein. Je ne dis pas. Hein. Mais la fin, c'est la mort. La fin, c'est la perdition. Mais ça, évidemment, lui, il ne dira pas ça, il dira, t'as bien raison, au moins t'es beaucoup plus clairvoyant que ces chrétiens qui sont à côté de la plaque. Donc, en tant que chrétiens, nous avons quelque chose d'extraordinaire. Christ en nous, c'est le mystère de la gloire. Mais ce n'est pas révélation. Vous voyez, le problème, c'est que quand on n'a pas de révélation de la part de Dieu, on ne peut pas avancer. On ne peut avancer qu'à partir du moment où il y a une révélation. Une révélation du Saint-Esprit qui nous indique que nous sommes sur un mauvais chemin, que nous sommes pécheurs. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Ce n'est pas nous-mêmes, par notre intelligence, que nous allons découvrir ça. Parce que nous pouvons avoir des pensées et des raisonnements qui s'opposent à tout ce que la Bible dit. Et donc, c'est pas comme ça que ça va changer. Alors, par la connaissance de la parole de Dieu, évidemment, la foi devient un bouclier qui va éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Hein? Bon, maintenant, quand l'ennemi est déjà dans nos pensées, et bien dedans, c'est difficile, hein? Il ne peut pas être un bouclier. On a besoin d'une révélation, il n'y a rien à faire. S'il n'y a pas de révélation, il n'y a rien. Sans vision, le peuple périt, sans connaissance de la parole de Dieu, sans une révélation, un éclaircissement du Saint-Esprit dans nos cœurs, il n'y aura pas de transformation. Et ce sera une catastrophe. Mais par contre, si Dieu se révèle à nous et que nous mettons notre foi dans sa parole, alors la parole de Dieu devient un bouclier qui va éteindre tous les traits enflammés du mal. Alors, notre victoire sur Satan et ses œuvres. C'est intéressant de savoir comment est-ce que nous pouvons remporter la victoire sur Satan et ses œuvres. Ça vous intéresse de savoir ça?
Amen.
J'espère. Enfin, à moins que vous le sachiez déjà, alors vous pouvez venir ici, je m'en vais, ou je vais vous écouter du fond de l'église. J'espère que certains savent déjà certaines choses, évidemment. Hein. Au début de la création, dans Ézéchiel 28, verset 15, il est dit ceci, « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur. » Donc, le diable a voulu être l'égal de Dieu, et la conséquence, c'est qu'il a été précipité. Il était le chérubin protecteur, il était Lucifer, l'ange de lumière. Il avait énormément de puissance, de pouvoir, etc. Et Dieu lui avait fait une belle place. Hein. Il était pas le maître chanteur, mais le chantre par excellence des chorales de l'Éternel. Hein. Et il a voulu se faire l'égal de Dieu par orgueil. Et il a été précipité sur la terre avec ses démons. Un tiers des anges l'ont suivi dans sa course. Et il est devenu Satan, l'ennemi de nos âmes, l'adversaire de Dieu. Satan signifie opposant, adversaire, c'est notre adversaire. Et le diable s'oppose à tout ce que Dieu fait, et en plus de cela, il a toujours été en opposition avec les enfants de Dieu, avec Israël, le peuple de Dieu, avec l'Église qui est la nouvelle création. Je vais dire que Dieu, depuis la croix, et depuis la résurrection, depuis l'ascension, envoyer son esprit sur les disciples, et maintenant, qu'on soit juif ou qu'on soit non-juif, Dieu fait de son peuple tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui sont venus à lui. Alors, nous allons regarder un tout petit peu ensemble la façon dont le diable s'attaque aux enfants de Dieu, donc, et comment ils peuvent résister aux actions du diable. Alors, l'œuvre de Satan dans l'esprit humain, on va voir plusieurs choses. Il y a d'abord l'œuvre du diable dans l'esprit humain. D'accord ? 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. » Les armes que Dieu nous donne ne sont pas charnelles, elles sont puissantes pour renverser des forteresses. On a parlé des forteresses, des raisonnements, des pensées qui viennent de l'adversaire. Mais justement, Dieu nous donne des armes spirituelles qui ne sont pas charnelles, parce que nous avons vu que la chair ne se soumet pas à Dieu. Donc, il n'est pas possible de combattre charnellement contre le diable, d'accord ? Et nous avons besoin des armes que Dieu peut nous donner, hein, et qui peuvent renverser donc les forteresses, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la pensée, contre la connaissance de Dieu. Et nous pouvons amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Parce que je vous déclare qu'il y a des pensées dans l'esprit de plusieurs qui ne viennent pas de Dieu. Et ça ne devrait pas être étonnant. Ce n'est pas une prophétie. C'est connu, hein? C'est certain. Et donc, les pensées que nous avons épousées ne viennent pas toutes de Dieu. Et le diable vient avec des sophismes, c'est-à-dire des pensées qui sont dirigées à nous faire voir les choses autrement que selon le plan de Dieu, selon la vérité. Un sophisme, c'est vraiment un mensonge déguisé, subtilement, afin que nous puissions entrer dans une façon de voir qui ne vient pas de Dieu. Et le diable est expert avec ça. Il ne vient pas avec ses gros sabots, c'est-à-dire il ne vient pas, moi je viens avec une pensée là qui est complètement... Et il y vient avec une possibilité de venir nous séduire par la ruse, et il nous prend progressivement de telle sorte que nous entrions et que nous puissions prendre cette pensée et l'accueillir comme la nôtre. Et voilà, quand la pensée du diable devient la nôtre, là, il a réussi. Ça, c'est la porte d'entrée. Là, c'est la porte d'entrée. Là, la porte est ouverte et il rentre, ça, sans problème. Là il a déjà rempli l'espace et il vient, il contamine, hein, progressivement. C'est comme un virus, informatique. Vous savez, les virus informatiques. Et on va dire notre personne, c'est un peu comme un ordinateur. Tout ce que nous regardons sur Internet, la télévision, la manière dont nous pensons, dont nous écoutons les autres, ce que nous écoutons dans nos champs, etc., eh bien, ces choses peuvent avoir une porte. Et il y a comme des virus spirituels. Et si nous n'avons pas un bon antivirus, d'accord, spirituellement parlant, eh bien, il y a des virus qui vont venir. Et ces virus vont nous contaminer. Vous voyez ? Et des fois, nous pouvons paraître être bien, hein, il n'y a pas de problème physiquement, tout peut être génial. Mais là, à l'intérieur, il se passe quelque chose. D'accord ? Et ce virus-là, ne vous en faites pas, il va produire quelque chose. Comme une semence qui est semée dans un champ, là, produit selon son espèce, eh bien, et nous avons vu avec notre frère Martin que les bambous japonais, hein, et c'était positif là, hein, le bambou japonais, il lui faut 7 ans pour faire ses racines, puis tout d'un coup, boum, 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 boum. Il va monter jusqu'à des hauteurs de combien ? C'est 1 mètre par jour que notre frère disait. Hein, on a quelqu'un dans la famille, elle avait mis du bambou, je ne sais pas si c'est du genre bambou japonais, c'est possible. En tout cas, les racines sont venues en dessous de sa terrasse en bois. Et tout bouge là. Et ça va vite. Hein. À mon avis, en quelques années, boum, boum. Et elle doit tout changer, tout remplacer, enfin tout réparer, etc. Et là, on a dû faire venir quelqu'un pour enlever toutes les racines. Parce que, évidemment, imaginez-vous, au bout de quelques années, qu'est-ce que certains virus peuvent détruire votre ordinateur, hein, quand on parle d'ordinateur, mais ça peut aussi nous démolir complètement. Et ça peut être une œuvre sournoise, ce qui au départ, c'est pas de problème. Je vis bien avec, hein, c'est bon. Hein, et puis après, oh, bonjour la catastrophe, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, c'était une œuvre en souterrain, comme ça, et puis hop, ça se voit à l'air libre. Hein? Ah, et c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, il nous séduit, le diable, par des moyens discrets, voilés, fausseté et le mensonge, évidemment. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui nous affranchit, qui peut nous sortir de tout ces voies d'égarement. Résister. Hein? Quand Satan nous donne une pensée, nous devons dire « Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. » Mais pour ça, il faut déjà discerner. Il y en a qui ne savent pas discerner. Entre leur voix et la voix de l'ennemi. Si on ne sait pas discerner, comment est-ce qu'on va pouvoir résister ? On ne va pas y résister, parce qu'on accueille. Et donc, il va falloir avoir du discernement. Discernement spirituel pour ne pas se tromper. Luther a dit, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid sur votre tête. Hein? Jacques 4, verset 7, dit ceci, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Hein? Je crois que c'est très important. Soumettez-vous donc à Dieu, mettez-vous sous la main puissante de Dieu, nous élèvera, bien sûr, mais dans cette soumission, alors nous pouvons avoir cette capacité de résister. En fait, dans le monde spirituel, on n'a aucune autorité si on ne se soumet pas. Vous savez, toutes les autorités doivent être soumises. Même Jésus se soumet à son Père. D'accord ? Alors qu'il est égal. D'accord ? Il y a égalité, principe d'égalité dans la divinité. Et pourtant, il se soumet à son Père. Et donc, à partir du moment où on parvient à se soumettre, on peut exercer une autorité. L'exercice de l'autorité, c'est un principe de soumission. Il y en a qui voudraient, donner des ordres aux autres et ils ne sont soumis à rien. C'est impossible. C'est impossible et Dieu ne donnera jamais de l'autorité à quelqu'un qui ne se soumet pas. Il faut se soumettre, c'est important. Et c'est à partir de ce moment-là que le diable va devoir s'enfuir. En fait, il y a une grande différence entre l'exercice de Satan et le nôtre. Et la grande différence est où ? C'est que le diable, il est puissant. Le diable, il est puissant, très puissant. Il a de la puissance. Et je voudrais simplement donner un exemple de la puissance. Dieu est puissant, est beaucoup plus puissant que lui. Mais je veux dire que le diable a de la puissance. C'est une vérité. D'accord ? Un agent vient dans un carrefour et voilà. Il fait en sorte que le feu soit rouge. D'accord ? Je sais pas, il y a peut-être un dysfonctionnement dans le feu ou il y avait trop de monde dans ce carrefour. Voilà. Soit il fait des gestes, soit il règle l'appareil ou il regarde, par exemple, devant le feu rouge. Qu'est-ce qui se passe devant le feu rouge ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Les gens ont peur de faire une faute. Pourquoi ? Et ils vont vraiment se soumettre. Il n'y a jamais personne qui va oser passer au feu rouge. D'accord ? On s'arrête au feu rouge, non seulement parce que c'est écrit dans le code de la route, mais en plus il y a le policier qui est là. Pas intérêt de faire ça, parce qu'il va te prendre ton numéro de plaque et tu vas avoir une belle amende. C'est logique, c'est normal. Et donc, et voyez-vous que des gens viennent avec leur voiture, peut-être des 4x4. Ils auraient mille fois facile de rouler sur le policier. Ils sont plus puissants que le policier. Le policier, il n'a rien. Enfin, vous allez dire, il a peut-être un flingue, mais normalement, tout ce qui vient dans le carrefour est plus puissant que lui. Mais on respecte parce qu'il a de l'autorité. C'est pas qu'il est puissant. C'est pas que la personne en elle-même, le policier en lui-même, est puissant. Il représente une autorité et je me soumets à cette autorité. Peur des conséquences. D'accord ? Enfin, bon, j'exagère. Hein. Normalement, on devrait toujours de plein cœur se soumettre, mais je veux dire que, bon, il y a des gens qui sont pressés, hein, dans les carrefours aussi, hein, et ils se soumettent. D'accord ? Et il y a une grande différence entre la puissance et l'autorité. En fait, l'autorité, Jésus l'a reçue de son Père. Il a vaincu les puissances des ténèbres à la croix. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a été établi au-dessus des dominations. C'est Éphésiens chapitre 1er, vous pouvez lire le chapitre 1er, 2, etc. Et ça continue. Où il a été établi au-dessus de toute autorité, de toute domination. D'accord ? De tout pouvoir. Il est vraiment au-dessus. Il a repris au diable sa puissance. Il n'a pas la possibilité, vraiment il a brisé l'œuvre de l'ennemi, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est venu sur la terre, Jésus, c'est pour détruire les œuvres du diable. Hein? Il est venu pour détruire les œuvres du diable et il a repris la puissance du diable, les clés de la mort aussi. Les œuvres du diable ont été brisées, mais aussi la mort. En fait, le diable veut nous faire pécher, parce que le péché va nous éloigner de Dieu, va nous priver du salut, d'accord, et veut nous faire mourir. Pourquoi ? Parce que le diable est venu pour nous détruire, pour voler ce que nous avons, d'accord, pour nous égorger. Donc égorger, nous enlever la vie, d'accord. En fait, Jésus est mort à la croix. Vous êtes d'accord ? Il a pris notre punition. Donc notre punition, elle est déjà prise par Jésus. Mais en plus, il est mort avec nous. Hein ? Sur la croix, il est mort pour nous et nous sommes morts en lui. En fait, nos péchés ont été cloués à la croix avec notre vieil homme. Et nous sommes morts en Christ, avec lui. Et maintenant, nous sommes ressuscités. Il y a deux principes. Hein. Il y a le principe de la mort, il y a le principe de la résurrection. Et le diable ne sait rien faire contre quelqu'un qui est mort. Parce que le but ultime, c'est de nous faire mourir. Maintenant, si nous sommes déjà morts en Christ, il ne sait plus rien faire. En fait, il ne sait pas aller plus loin que la mort. Le but dernier et les possibilités qu'il a, c'est de faire pécher l'être humain, le séduire, etc., pour le faire arriver à la mort. C'est le but du diable. Mais, en fait, Jésus a dépassé cela. Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et pour ceux qui sont morts en Christ, ils sont aussi ressuscités en Christ, mais le diable n'a plus accès sur le terrain de la résurrection. Le terrain de la résurrection appartient à Dieu, il n'appartient pas au diable. C'est impossible, c'est un terrain sur lequel il n'a pas accès. Donc, nous sommes morts avec le Christ et nous sommes ressuscités avec le Christ. Et le diable n'a pas d'accès sur le terrain de la résurrection. Il a du terrain jusqu'à la mort, pas plus. Et comme Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité et il nous a donné aussi, bien sûr, l'ascension, hein, après la résurrection, il est assis à la droite du Père. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 6. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Et donc, mais le diable n'a pas accès là. Et donc, Dieu nous a donné son autorité. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce pouvoir, il nous l'a donné. Il l'a donné à ceux qui croient. Il faut s'approprier ça encore. Il faut y croire. Et non seulement y croire, mais le prendre pour soi. Il a donné à l'Église, on voit quand il envoie les disciples deux par deux, ils sont 70, il les envoie, il chasse les démons. Waouh ! Il se passe des trucs de fou. On chasse les démons, c'est incroyable. Mais réjouissez-vous, attention, réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie, dira Jésus. C'est vrai, c'est dans le royaume, il y a un pouvoir extraordinaire, il y a une puissance, il y a une autorité. Et voilà la différence entre la puissance du diable et l'autorité. En fait, Dieu nous donne non seulement de la puissance, mais c'est surtout de l'autorité. Et je vous disais que l'autorité, c'est plus important pour nous que la puissance. Beaucoup plus important. Si nous avons l'autorité sur le diable, il doit déguerpir. Dans la mesure où nous nous soumettons à Dieu. Si nous ne nous soumettons pas à Dieu, nous n'avons aucune autorité. Si nous nous soumettons à Dieu, il va devoir dégager. Alors, combien de fois va-t-il dégager? Une fois. Il n'y a pas besoin de prier plusieurs fois. Vous savez qu'il y a des gens qui ont, après avoir chassé, ils sentaient une mauvaise présence près d'eux, et alors ils ont pris ils ont dit, Seigneur, couvre-moi de ton sang, et je prends autorité sur l'ennemi, et puis ils ont encore la sensation que l'ennemi est là. Et donc, ils continuent à chasser. Et puis, 2, 3, 4, 5. Puis, ils perdent la foi. En fait, il n'y a besoin que de chasser une fois. De prendre autorité sur l'ennemi une fois. Ou sinon, vous annulez la puissance de Dieu. Vous annulez la parole de Dieu. Si nous ne croyons pas que nous sommes libérés de l'ennemi, et que nous chassons continuellement, nous finissons par nous décourager, et l'ennemi a une porte ouverte. Il est parvenu à vous faire croire, et c'est là où nous sommes entrés dans un mensonge, qu'il est toujours là. Et donc ça veut dire que notre prière n'aurait servi à rien, que nous n'avons pas la foi, que la parole de Dieu n'est pas réelle, et c'est ainsi que des gens sont la proie de l'ennemi. Et alors qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Il vient la peur. Parce que l'ennemi utilise sa peur. Toujours. Hein? Le mensonge. Ici, le camp, on a vu le camp, les mensonges, l'adversaire. Hein? Et c'est dans le but de quoi? C'est de nous faire peur. Et quand quelqu'un a peur, il n'accomplit pas la volonté de Dieu. Il est même incapable. On peut être empêché, immobilisé dans l'état où nous sommes. Et l'ennemi, c'est ce qu'il veut, nous faire peur. Parce que nous avons cru à des mensonges. Une fois que on accède à la vérité, on prend autorité sur la peur. La peur ne vient pas de Dieu. Elle vient du diable. Et son but, c'est de nous faire peur. Et nous faire croire à ses mensonges. Si nous nous laissons avoir là-dedans, il prend l'autorité. Et il y a des gens qui sont manipulés par l'ennemi. Parce que, à la place de prendre autorité sur l'ennemi, et ils ont donné les clés de leur vie aux mains de l'ennemi qui fait plus ou moins ce qu'il veut. Il leur envoie des peurs. Et ils peuvent même avoir peur de mourir à tel point qu'ils ont même peut-être des pensées de suicide, le découragement venant, etc. On en arrive à des situations désastreuses parce que l'ennemi a fait son camp chez eux. Il est là. Et donc, alors que les personnes, et nous sommes tous les mêmes, hein, on n'est pas meilleurs parce qu'on est né aux Irlandais ou Australiens ou chez le Sank ou aux États-Unis. On a tous les mêmes possibilités de réussir. Nous avons tous les mêmes possibilités d'avoir cette autorité. Nous avons, mais si nous laissons le mensonge prendre la place dans nos vies, qu'est-ce qui va se passer? Et l'ennemi va prendre le contrôle. Donc, bien sûr, il y a l'œuvre de Satan sur le corps aussi. Hein, on a vu l'esprit. Voilà, sur le corps de l'homme, il y a des maladies qui ne viennent pas de Dieu. Surtout pas, les maladies ne viennent pas de Dieu. Mais je veux dire qu'il y a une différence entre les maladies qui sont d'ordre physique et les maladies qui ont pour origine le diable. Ça existe. Hein? Et la Bible est claire par rapport à ça. Et il nous faut du discernement. Il ne faudrait pas dire que toutes les maladies ne sont pas physiques et qu'elles sont toutes du diable. D'une certaine manière, oui, ça vient du mal, mais à cause du péché originel, on pourrait dire cela. Mais il y a des choses qui sont physiques, tout simplement. Et ça, on ne peut pas aller contre cette approche. Mais il y a aussi, effectivement, des maladies qui viennent de l'ennemi. Et donc, la manière de soigner ce genre de maladies, les unes et les autres, ne sont pas les mêmes. Dans un cas, il faudra prendre des médicaments, il faudra se soigner, on peut être guéri, hein, d'abord il faut prier, et puis Dieu peut guérir physiquement qui que ce soit. Hein, puis, bien sûr, il y a la médecine. Mais dans l'autre cas, si ça vient de l'adversaire, il faut prendre autorité sur l'œuvre de l'ennemi. Et si on prend des médicaments à la place de prendre autorité sur l'œuvre de l'ennemi, qu'est-ce qui va se passer? Ça passera rien, on va rester comme ça. Il n'y aura pas de changement. Donc, nous devons réaliser que beaucoup d'affections sont de réelles maladies, mais d'autres sont des attaques du diable. Hein? La fièvre de la belle-mère de Pierre, par exemple, était une attaque de Satan. Certains auraient dit, ben non, elle a de la fièvre, hein, c'est une maladie bénigne, c'est pas grave, bon, dans une semaine, dans 15 jours, ça ira mieux. Mais non, c'était pas ça. Et Jésus le savait. Et Jésus va réprimander la fièvre. Vous croyez qu'il aurait réprimandé la fièvre si c'est simplement une maladie? C'est un peu fou. Hein? Non, il va réprimander la fièvre parce que c'est une attaque de l'ennemi. Et qu'il a discerné que c'était une attaque du diable et pas une maladie. Luc 4, verset 39, s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. La fièvre est un symptôme. Le Seigneur ne pouvait pas réprimander un symptôme. Vous êtes d'accord avec ça? Mais Satan était derrière le symptôme avec sa personnalité propre. Et Jésus va réprimander, va prendre autorité et la belle-mère de Pierre, elle est libérée. Hop. On n'en parle plus. Les ulcères sur le corps de Job ne pouvaient pas être guéris par des médicaments. Alors beaucoup diraient, et les ulcères, mon ami, il faut passer par les médicaments. Ou alors, il faut avoir beaucoup de foi, on va guérir. Mais si ce n'est pas une guérison qu'il faut physique, mais une délivrance, une libération de l'œuvre que l'ennemi essaie de faire, il faut discerner. Hein. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans la fin de la vie par rapport à l'histoire? L'histoire de Job, c'est qu'il va être libéré de cette attaque. Hein. Quand l'ennemi, quand Dieu va décider, cette maladie va disparaître d'une manière directe. Voilà, je pense que c'est vraiment important. Alors, l'œuvre de Satan sur la conscience de l'homme, on pourrait voir aussi l'œuvre de Satan sur la conscience de l'homme. C'est très intéressant aussi, Apocalypse 12, verset 10. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Donc, l'œuvre du diable, c'est une accusation. Une accusation qui se fait sans cesse. Hein? Et l'accusation peut être vaincu au travers du sang de l'agneau. Hein? Parce que c'est le sang de Jésus qui purifie notre conscience. C'est le sang de l'agneau qui purifie notre conscience. Comment surmonter les accusations de Satan? Ben, on voit 1 Jean, Apocalypse 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. » Le sang de l'agneau qui a coulé à la croix nous purifie de tout péché. Hein. Il y a le pardon qui est apporté, il y a une délivrance. Dieu est celui qui vraiment purifie notre conscience à partir du moment où je me repens. Hein. Il faut une repentance sincère. Si je peux être dans la lumière, même que si j'ai fait du mal dans ma vie, Dieu me purifie à partir du moment où j'abandonne mon péché, je me repens sincèrement et je change de cap. 1 Jean 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Voilà, ça c'est important. Il y a aussi une quatrième chose, c'est l'œuvre de Satan dans nos circonstances. Alors, les circonstances, on pourrait dire que bon, c'est des choses qui nous arrivent, qui arrivent aux uns et aux autres. Et quelquefois, le diable est derrière. Pas toujours, il ne faut pas tout abuser. Hein, mais dans certaines circonstances, il y a l'œuvre de l'adversaire. Il ne faut pas avoir l'ennemi partout. Hein, mais c'est pour ça qu'il faut discerner. Matthieu, au chapitre 8, verset 23, Jésus monte dans la barque et ses disciples le suivent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci » disait-il, « à qui obéissent même les vents et la mer ?» Lorsqu'il fut à l'autre bord, pardon, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres, et sépulcres vinrent au devant de lui, ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. En fait, ils ont été sur le lac, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une tempête incroyable, et un mini-cyclone, peut-être qu'il n'y avait rien à 50 mètres plus loin, mais juste pile au-dessus du bateau, il y avait un cyclone, hein, ça arrive, hein. Il y a eu un cyclone au-dessus de l'église dans les années 80, là, tous les toits ont été rasés. Hein, tout le village a dû être reconstruit au niveau des toitures. Et voilà, mais il y a des fois un mini-cyclone sur le lac de Tibériade, de Génézareth. Et voilà, les gens qui peuvent être dans une barque peuvent être envoyés vers le fond. Hein. Et c'est ce qui se passait. Et, et Jésus va prendre autorité sur les vents et sur la mer déchaînée. Et en fait, il y a une origine divine, une origine diabolique par rapport à ce phénomène. Parce que c'était contre Jésus. Jésus allait de l'autre côté, il y avait deux possédés qui étaient de l'autre côté, qui avaient besoin d'une délivrance. Et l'ennemi ne voulait pas qu'ils y aillent. Donc, il a essayé d'empêcher, de détourner Jésus et ses disciples pour qu'ils n'aillent pas de l'autre côté. Parce qu'il y avait une délivrance, il y avait, il y avait quelque chose de magnifique à exécuter pour que deux personnes soient libérées. Donc, il savait, Jésus savait que le diable se tenait derrière. Quand il prend autorité, il y a quelque chose derrière. C'est simplement le vent. Et donc, Satan s'attaque à notre corps, notre conscience, notre esprit, et aussi à notre environnement. D'accord ? Ça, c'est une chose tout à fait réelle. Alors, comment devons-nous réagir par rapport aux attaques de Satan dans nos circonstances ? D'abord, s'humilier sous la main puissante de Dieu. Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et 1 Pierre 5, verset 6, nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillés. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Résistez-lui avec une foi ferme. Donc, résistez au diable. C'est à partir du moment où on se soumet, on s'humilie sous la main puissante de Dieu. Et là, on peut résister au diable avec une foi ferme. La foi dans les Écritures, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et c'est dans la mesure où nous utilisons la parole de Dieu, nous confessons la parole de Dieu, que l'ennemi va devoir décamper. Il ne va pas pouvoir rester. Avec une foi ferme, résistez-lui. Et donc, nous devons rejeter toute forme de peur. On l'a vu avec les disciples dans le bateau, ils avaient peur. Le trouillomètre était au maxi. Jésus prend autorité, il y a une paix parfaite qui vient. Ça, c'est extraordinaire avec Jésus. Extraordinaire ce que Dieu fait. Et une sœur possédait beaucoup d'expérience, dit un jour, la peur, c'est la carte de visite de Satan. La carte de visite de Satan, la peur. Ça, la peur, c'est ce qui permet d'entrer au diable. Et une fois que vous avez accepté la peur, Satan franchit le seuil de la porte. Si vous rejetez la peur, Satan ne pourra pas entrer. En rejetant la peur, fermez la porte au diable. Toutes les pensées de peur sont des attaques de Satan. Assurément, et c'est important de réaliser ce que Job a dit un jour. Job, qu'est-ce qu'il a dit ? Ce que je crains, ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Et donc, ça a de la puissance, la peur. Donc, je ne dois pas accepter d'avoir peur. D'accord ? Je rappelle ici que le diable a été vaincu à la croix. D'accord ? Que son œuvre est peut-être une œuvre puissante, mais que Dieu nous a donné, en tant qu'enfants de Dieu, l'autorité pour être au-dessus de lui. D'accord ? Et c'est important. Jésus, il a la même. Il a cette puissance, on va dire le super Jésus. Non, Jésus, il a cette puissance, il a cette autorité qu'il nous délègue. Il nous donne à tous. Je voudrais prendre le prénom de chacun. Vous avez cette puissance. Vous avez cette délégation de l'autorité de Dieu dans votre vie. Donc, pas de crainte avec ça. C'est simplement une chose que nous ne devons pas faire, c'est de donner accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Pas de porte ouverte. Si la peur est une porte ouverte, alors il ne faut pas avoir peur. Confiez-vous. Cherchez Dieu dans la parole pour ne pas avoir peur, pour remplacer vos peurs par les promesses de la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. Mais celui qui est en nous, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, que Dieu règne en nous, vit, enfin, on le confesse. Alors, si nous confessons cela et que c'est une réalité, nous n'avons pas à le craindre. Alors, bien sûr, nous devons résister au diable par la foi. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. Une foi ferme, une foi qui est basée sur la parole de Dieu.
Voilà. Et ce que nous devons croire, c'est que la manifestation du Seigneur est pour la destruction des œuvres du diable. D'accord ? Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Je crois que c'est important. 1 Jean 3, verset 8. « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Donc, Jésus a détruit les œuvres du diable. Ça, c'est quelque chose que nous devons connaître, savoir. En Jésus-Christ, les œuvres du diable sont détruites. Hein? Pas entièrement. C'est-à-dire que celui qui est encore habité par des mensonges, l'ennemi a de la puissance contre lui. Mais pour celui qui accède à la vérité, cette puissance n'existe plus dans le sens que... Enfin, cette puissance n'existe plus dans le sens que Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable, et donc, avec Jésus, nous nous tenons devant la face de Dieu pour que ces œuvres soient de toute façon déjà détruites. À la croix, ça a été accompli. C'est pas lutter pour être victorieux, c'est s'asseoir dans la victoire. Hein, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, donc nous sommes déjà dans la victoire. Si nous luttons pour avoir la victoire, nous sommes déjà dans la défaite. Si nous travaillons pour essayer d'obtenir la victoire, c'est une défaite et c'est une porte d'entrée de l'ennemi. Parce que nous sommes déjà dans la victoire. Donc c'est une réalité. Ce qu'il faut faire, c'est résister. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, Dieu nous demande non pas de conquérir, d'avoir une victoire et d'espérer d'avoir une victoire. Nous sommes déjà dans la victoire, mais nous devons la maintenir. Nous devons garder cette victoire. Et comment est-ce que nous gardons la victoire ? En résistant au diable. Et donc, ça veut dire que nous confessons la parole de Dieu pour résister contre le diable. Je crois que c'est tellement important. Alors, une autre chose, c'est croire que la mort du Seigneur a détruit Satan. La mort du Seigneur Jésus a détruit toute la puissance de l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. D'accord ? Ce sera une réalité visible une fois qu'il sera jeté dans les temps de feu, nous le savons. Hein ? Satan est un ennemi vaincu, de toute manière. De toute manière, il est vaincu. Et on peut le voir dans Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La manifestation du Seigneur Jésus a détruit les œuvres du diable, et la mort du Seigneur Jésus a détruit le diable lui-même. Donc, on n'a vraiment plus à avoir peur du diable. Nous avons une victoire totale. Troisième chose à croire, c'est croire que la résurrection du Seigneur a fait honte à Satan. Il y a une honte sur le front de l'adversaire. Et l'ennemi essayerait de, par tous les moyens, il essaye de mettre la honte sur nous. Mais la honte, elle est placée sur lui. Je crois que c'est très important. Donc Colossiens 2, 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc il a livré publiquement en spectacle les autorités, et c'est-à-dire l'ennemi. Hein ? Il a vraiment tiré derrière son char de gloire dans la poussière. Derrière son char de triomphe. Imaginons une arène romaine avec l'empereur qui tire derrière lui l'ennemi qui est vaincu, terrassé dans la poussière. Et une dernière chose, c'est croire que l'ascension du Seigneur dépasse largement la puissance de Satan. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et tout ce que nous demandons, Dieu le fait, Dieu l'accomplit. Et je crois que c'est tellement important, nous pouvons nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, hein, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Éphésiens, chapitre 1, versets 20 à 22, c'est très beau aussi. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a déployé sa puissance en Christ. Hein, Dieu a fait cela et dépasse largement la puissance de Satan. Donc, vraiment, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Hein. Nous ne travaillons pas pour acquérir une victoire, la victoire, mais nous sommes déjà victorieux et ce que nous devons faire, c'est garder notre position. Notre position, c'est d'être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et notre autorité, c'est celle de Jésus qu'il nous confère pour garder cette autorité, pour prendre la victoire sur l'ennemi dans nos vies et prendre la victoire aussi pour les âmes qui ne lui appartiennent pas. Parce que ça aussi, c'est un rôle. Un travail pour nous, un travail pour les autres dans l'évangélisation. Hein, si déjà nous n'avons pas la victoire pour nous, ça m'étonnerait qu'on puisse avoir des victoires pour les autres. Si nous sommes déjà vaincus sur notre propre terrain, comment est-ce qu'on va pouvoir avoir la victoire pour d'autres personnes ? Si nous ne délogeons pas l'ennemi là où il a pris une emprise, si nous ne voyons pas où la porte est ouverte dans notre cœur, alors comment est-ce qu'on va pouvoir prendre la victoire pour nous et comment est-ce qu'on va pouvoir prendre la victoire pour les autres? Nous avons toutes les victoires, elles sont dans sa parole et c'est important pour nous de réaliser cela. Est-ce que nous allons prier hein, par rapport à ces principes qui ont été vus? Seigneur Père, nous voulons nous soumettre à toi.